Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
En tout cas, un témoin ce vendredi. Fawaz Baker entre la France et le Liban après Alep.
À Alep, on ne peut pas vivre sans la musique et sans le chant. Chez nous, la chose la plus importante, ce sont les soirées musicales, qui sont hebdomadaires dans la majorité des cas. Les soirées à l'épine sont très célèbres.
À Alep, avant la guerre, la musique est la chose la plus sérieuse qui soit. Et son conservatoire, que dirigea Fawaz Baker, un lieu de première importance. Alep, c'est aussi une ville à l'urbanisme très subtil. D'ailleurs, notre invité fut d'abord architecte et aussi un peu archéologue. Les rénovations et les restaurations qui, jusqu'à la veille de la guerre, mobilisaient de forts investissements, étaient comme contraints de s'inscrire dans une longue durée de la ville. Au long de l'année 2011, le mouvement de protestation contre le régime s'est déployé de plus en plus fortement. Les heurts sont devenus de plus en plus sérieux. En 2012, on peut parler de guerre. Fawaz Baker est en déplacement en Europe quand l'aéroport international est fermé. Il renonce à rentrer. Aujourd'hui, le chaos règne à Alep, qui est passé de 4 à 2 millions d'habitants. La situation est à bien des égards illisible, en tout cas très mouvante. Il faut croire que se prépare néanmoins une autre Syrie dans la décomposition et la dissémination. Plus d'un million de Syriens se retrouvent ainsi au Liban, où Fawaz Baker intervient régulièrement.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Fawaz Baker, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez fait des études d'architecture à Alep, à Lyon, à Versailles.
Oui.
Et vous avez préparé un doctorat où vous faisiez le rapport entre Paris, Le Caire et Alep.
Oui, bah c'était pas tout à fait un doctorat, c'était une spécialisation en architecture,
un DESS.
Effectivement, un DSS. Oui, effectivement, une comparaison. J'observais les villes, quoi. J'observais les villes pour comprendre quelque chose. Voilà, c'était plutôt ça.
On va essayer de situer la vôtre avec ce vieux son issu de l'heure de culture française. Peut-être reconnaîtrez-vous la voix que nous n'avons pas pu identifier.
Ce qui de toute antiquité a fait naître et se développer le site d'Alep, c'est la position que la ville occupe sur la carte routière du Proche-Orient. Le tel où s'élève aujourd'hui la citadelle, qui domine tout le paysage environnant, a de bonne heure servi de point de repère aux caravanes qui sillonnaient la haute Syrie. La grande route venant de Mésopotamie franchissait l'Euphrate en face de Carchemish, aujourd'hui Djerablis ou Djerabis, poursuivant vers le sud en direction de la côte méditerranéenne, elle atteignait Alep à mi-distance entre le fleuve et la mer. Vers le nord, Alep est en relation directe avec la Turquie et l'ancien habitat des Hittites à la lisière de l'Asie mineure. Dans le passé, elle sert d'état tampon entre les Hittites déferlant vers l'Euphrate ou la Palestine, les Égyptiens montant vers la Haute-Syrie et l'Euphrate, les Assyriens ou les Babyloniens en marche vers la Méditerranée ou vers les montagnes du Taurus.
Alors la géographie, c'est l'histoire qui s'inscrit dans l'espace. L'histoire, c'est le temps qui s'inscrit dans l'espace. Ça, ce sont nos distinctions à nous, historiens et géographes. Mais vous êtes architecte et musicien. Alors, quel rapport faites-vous entre architecture et musique? Parce que c'est pas un hasard si vous êtes passé d'une discipline à l'autre.
Eh ben, la seule différence, je dirais, c'est la matière première. C'est-à-dire, dans l'architecture, la matière première, c'est l'espace. C'est les trois dimensions de l'espace. Or que dans la musique, il y a la matière première, c'est le temps. Et c'est vrai que je suis passé de l'architecture vers la musique parce que finalement, j'ai compris, enfin pour moi, c'est une réflexion personnelle, que le temps, c'est quand même beaucoup plus précieux et beaucoup plus gratuit que l'espace. Donc du coup, j'ai fait ce passage-là. Ceci dit, les règles sont les mêmes. Je veux dire, tout ce qui est proportion, tout ce qui est création, imaginaire, etc., etc., c'est exactement la même chose, hein. Je veux dire, dans les deux cas, créer un bel espace ou faire une belle mélodie, il s'agit d'avoir des belles proportions mathématiques, en fait, de bien placer dans l'environnement, etc., etc. Donc, c'est les mêmes règles.
Mais la différence entre le beau et le laid, où est-elle
En tout, pas seulement en musique, même dans la vie, ils sont très proches. C'est-à-dire, on a vraiment tort de penser que le laid et le beau, ils sont très loin. Non. La laideur ordinaire, elle est loin de la beauté ordinaire. Ça, c'est les extrêmes. Par contre, l'extrême beauté, en fait, l'invention, elle est très très proche de l'erreur. Elle se trouve au centre. Elle se trouve vraiment au centre. C'est-à-dire, il faut être très courageux en côtoyant, en fait, l'erreur, en essayant de tourner tout autour de la laideur extrême, pour trouver de la beauté. Et à ce moment-là, c'est vraiment une beauté rare, parce que justement, elle est engendrée par le courage, elle est engendrée aussi par flirter le mal, etc., etc. D'ailleurs, bon, ben, il y a plein de choses à dire là-dessus, hein. En fait, l'histoire de l'art humain, en fait, elle est que ça. C'est-à-dire, on essaye de domestiquer, en fait, des notes qui sont plutôt dissonantes. On essaye de adapter des couleurs qui vont pas ensemble physiquement. On essaye, etc. Et c'est de là, on arrive, en fait, à enrichir notre monde et à, voilà, c'est, voilà, tia da da di da, ta da da di da, ça c'était, on pendait les gens pour ça en fait au Moyen-Âge. Aujourd'hui c'est Wagner, même dans la musique arabe, etc. Maintenant c'est un...
Qu'est-ce que vous me parlez de la musique arabe? Qu'est-ce que c'est la musique arabe?
Enfin, la musique arabe...
Je croyais que vous n'aimiez pas cette expression.
Non, j'aime pas les divisions, je pense que on est homme ou femme par hasard, on est arabe ou français par hasard, on est musulman, chrétien par hasard, voilà. Donc du coup, j'aime pas trop ces divisions-là.
Mais vous en faites d'autres en même temps, Fawaz Baker, parce que vous dites, il y a la musique arabe à l'est, la musique arabe à l'ouest, ce sont des distinctions que vous aimez formuler de manière provocatrice, de même que il y a une partie du monde arabe qui boit des boissons anisées et une partie du monde arabe, plus à l'ouest, qui boit du vin.
Oui, ben bien sûr, mais c'est comme... Mais enfin, moi je dis pas ça pour diviser, c'est bien le contraire. Je dis ça pour unifier, c'est-à-dire c'est pour dire que quand on parle de musique arabe, nous sommes en train de se distinguer, donc je regarde à l'intérieur de cette musique pour distinguer en fait plusieurs musiques là-dedans. C'est comme quand on parle de musique européenne, c'est complètement ridicule de parler de musique européenne, il y a la musique bretonne, elle est quoi là-dedans? Je veux dire, c'est... Voilà, par contre, si on veut regarder la continuité des choses, c'est-à-dire les gammes, j'ai pu observer les gammes, les formes des villes, c'est exactement la même chose. Si vous venez de l'Est, en fait, en allant vers l'Ouest, vous prenez la forme du pain, qui est vraiment la chose la plus banale possible, et ben plus qu'on va à l'Est, plus que le pain est fin. Et jusqu'à sa disparition, en fait, quand il est remplacé par le riz. C'est-à-dire, en Iran, on mange un pain qui est presque transparent. On passe en Irak, il épaissit. En passant par la Syrie, en fait, il devient vraiment la galette bien connue qu'on appelle le pain libanais aujourd'hui. Et puis après, en Égypte, il est encore un peu plus épais, etc., pour arriver jusqu'à la baguette française, qui est carrément épaisse, quoi, voilà, au pain de campagne. Donc ça, c'est pour voir. On a tendance à séparer les choses pour se rassurer. Moi, je ne suis rassuré que par la continuité. Je ne suis rassuré que par la ressemblance et la distinction. La ressemblance et la distinction à la fois. Voilà.
Dans votre DESS, vous expliquiez que Paris, c'était une ville orientale.
Non, c'est pas, non, mais enfin, vous me provoquez là. Non. Paris, c'est une ville qui a influencé effectivement les villes. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire les villes d'Orient, à partir du 19e siècle, à partir du 20e siècle, ils ont eu des opérations parisiennes. C'est-à-dire ce que Haussmann a fait à Paris, les percées et tout ça, le traitement du tissu ancien, du tissu urbain ancien. Et bien tout ça, il y a eu des expériences comme ça, qui sont plus ou moins réussites. Hein, je veux dire, moi je porte aucun jugement là-dessus. Il fallait, s'il n'y avait pas les deux rues qui ont été percées pour alimenter le souk d'Alep, je pense que le souk d'Alep, il allait finir en ruine, quoi. Je suis désolé, il a fini en ruine, mais pas à cause de ça.
Je vous propose qu'on revienne justement à Alep et au conservatoire que vous avez animé pendant plusieurs années, où il y a de grands professeurs de oud. Tenez, vous allez me dire que c'est légendaire, mais mieux vaut le légendaire que les distinctions pseudo-savantes. Les origines du luth sont ici comptées, encore une fois, par une voix non identifiée.
Le calife Mu'tamid interrogea un jour le poète Obed Allah sur les origines de la musique. Ce dernier répondit en ces termes « Prince des croyants, il y a un grand nombre d'opinions à ce sujet. Le premier qui fit usage du luth est Lamec, fils de Matushaleh, fils de Mahavil, fils d'Abad, fils de Kanouk, fils de Caïn, fils d'Adam. Ce Lamec avait un fils qui l'aimait tendrement. La mort, le lui ayant enlevé, il suspendit le corps à un arbre. Les jointures se désagrégèrent et il ne resta plus que la cuisse, la jambe et le pied avec ses doigts. Lamec prit un morceau de bois et l'ayant taillé et raboté avec soin, il en fit un luth, donnant au corps de l'instrument la forme de la cuisse, aux manches la forme de la jambe, au bec celle du pied. Les chevilles imitaient les doigts et les cordes les artères. Puis il en tira des sons et chanta un air funèbre auquel le luth mêla ses accents.
C'est important de raconter ça au début d'un cours.
Ah ouais, ah bah oui, le symbolisme, c'est vraiment quelque chose de hyper important. Je veux dire, notre imaginaire, il est très pauvre s'il n'y a pas tout ça, quoi. Mais des histoires comme ça, moi j'en ai 10, j'en ai 15, j'en ai 20, et en fonction de la circonstance, en fonction de ce qu'il faut faire avec l'élève, etc. Ça, c'est des histoires qui sont hyper utiles, quoi. C'est notre
inconscient. Vous pouvez nous en raconter une. Imaginez que je sois un élève médiocre. Je vous dis, mais je travaille beaucoup. Alors, il paraît qu'il y a un de vos professeurs, Kadri Dalal, qui dit « beaucoup, c'est pas assez ».
Non, mais il n'y a pas d'élèves médiocres, déjà. Il n'y a que des profs médiocres. Je veux dire, c'est nous avons un cadeau énorme, en fait, qu'on a en face, quand on a un gamin à apprendre. Bah, par exemple, voilà une petite histoire pour quelqu'un qui manque d'un peu de sérieux par rapport à la musique. Parce que ça, j'entends souvent aujourd'hui qu'en temps de guerre, vous faites de la musique. C'est pas sérieux. Et bah, contre ça, je raconte l'histoire de Adam. C'est que Adam, quand Dieu lui a ordonné de rentrer dans ce plâtre d'argile qui deviendra en fait notre corps, il avait peur. Il avait peur de se coincer, il avait peur de devenir mortel, que son âme va être coincée. Donc l'ange Gabriel était là, et pour lui encourager à rentrer dans ce corps d'argile, en fait, il y a l'ange Gabriel en fait, qui est rentré. L'ange Gabriel, il est énorme. Il y avait entre son nez et sa lèvre supérieure 500 ans, on racontait. Il est énorme, quoi. Donc il est rentré dans ce corps d'argile, mais même Gabriel, le courageux, il avait peur quand il est rentré. Donc il a commencé à fredonner une mélodie pour dépasser sa peur. Et quand Adam a entendu la mélodie, eh ben, il est rentré, la peur a disparu et il est rentré dans ce corps d'argile, en fait. Et depuis, dès qu'on entend la mélodie, on se rappelle le temps où on n'était pas dans ce corps d'argile. Pour moi, la musique, c'est une raison de vivre. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça. Je veux dire, il faut en faire, il faut en abuser, quoi. C'est notre seule issue, je pense. La beauté, c'est notre seule issue.
Mais vous me soupçonnez d'être un élève pas assez sérieux, mais en même temps, vous incitez, paraît-il, vos élèves au plaisir, plus qu'au travail de bûcheron.
Ah si, il y a le travail de bûcheron, il est très important. Mais il ne sert à rien s'il n'y a pas le plaisir avec. Justement, c'est ça la contradiction. En fait, moi, je crois dans les contradictions assumées. C'est-à-dire, il faut beaucoup travailler en ayant du plaisir. Si on n'a plus de plaisir, il faut s'arrêter. Mais si on a du plaisir... et non, ils ne sont pas contradictoires, ces deux notions. Ils ne sont pas contradictoires du tout. Et justement, la logique, elle n'est pas suffisante. Bah, de toute façon, on fait de la musique justement pour dépasser cette logique, pour dépasser ces frontières. Encore une fois, je pense que ces frontières m'emmerdent. C'est-à-dire, de dire que quand on est sérieux... eh ben, on ne travaille pas beaucoup. Quand on est sérieux, eh ben, on n'a pas de plaisir. Ça ne veut rien dire.
Les frontières, vous les avez souvent dépassées avant même de devoir quitter Alep. Vous parliez de la musique bretonne. J'aimerais que vous nous racontiez vos longs séjours en Bretagne. Vous étiez résident privilégié, professeur de masterclass, jusqu'au centre Bretagne.
Ben oui. Par hasard, il y a un joueur de oud breton qui était à Alep pour apprendre le oud, qui assistait à un concert à moi, en fait, à Alep. On a fait la rencontre, comme ça, il est venu me voir, comme ça. Puis j'allais dans une soirée, je l'ai emmené avec moi, et on a joué de la musique, en fait, le soir même. Il allait partir le lendemain, c'est-à-dire, il a passé 3 mois à Alep pour apprendre la musique, etc., et il allait partir le lendemain. Et par cet hasard, complètement, j'ai été adopté par les Bretons. Et du coup, je suis un peu breton aujourd'hui. C'est vrai que à Brest, je me sens chez moi.
Vous leur dites la musique ottomane, parce qu'il faut aussi parler de musique ottomane, il n'y a pas que la musique arabe, entre guillemets. Oula. C'est savant et oral. Et vous faites de la musique populaire et de la musique orale aussi.
Non,
de la transmission orale qui permet la vie de la musique.
Voilà, encore une fois, c'est des amalgames, en fait, qui ne sera plus rien. Comme la modernité, comme le patrimoine et tout ça. Tout ça, c'est des notions qui sont complètement dépassées et qui ne servent à plus rien. Alors, c'était pour expliquer tout simplement qu'une musique savante, elle n'est pas forcément écrite. La musique ottomane, elle n'est pas écrite, mais elle est savante. D'ailleurs, il y a un savoir-faire énorme qui passe d'un cœur à l'autre, comme on disait, c'est-à-dire un savoir oral qui passe d'un maître à un élève, mais d'une manière directe, c'est-à-dire on n'a pas le droit de l'écrire. Pourquoi ? Parce que si on l'écrit, ça peut tomber dans les mains des méchants et ça peut être utilisé. Donc il y a l'enseignement de l'éthique qui va absolument avec ça. D'ailleurs, la musique, c'est un moyen pour imposer l'éthique, et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire, l'essentiel, ce n'est pas de faire de la musique et de faire la performance, encore un mot que je déteste, c'est plutôt, en fait, de faire briller son humanité pour rendre ce monde un peu mieux, tel qu'on peut. Donc, voilà, il y a le côté savant qui est oral pour les raisons que je viens d'expliquer, mais il y a d'autres musiques, en fait, qui sont populaires, mais qui sont pas savantes. C'est-à-dire, qui sont vivantes, où il n'y a pas énormément de choses à apprendre, mais par contre, et c'est absolument pas un jugement de valeur, ce que je raconte, hein, parce que chez nous aussi, il y a une musique qui est populaire, qui est savante, et d'ailleurs, très étonnant aujourd'hui, les conservatoires, en fait, du monde arabe, qui est un échec total depuis 30 ans, et c'est de la musique populaire écrite, qui est pas savante du tout.
Et c'est ainsi qu'à la Kreiz-Breizh Academy, qui n'est pas un échec, c'était en 2010, 2 ans avant que vous ne deviez quitter Alep, vous avez participé à une interprétation collective d'une Gwerz qui avait été recueillie par Émile Souvestre au XIXe siècle. Était-elle écrite, était-elle orale? Essentiellement orale, on entendra à la fin, après vous avoir écouté, Éric Marchand chanter.
Trazo neve in keris, mas yo can fall or yo won't kiss. Al megle van erbini you, von barda gantole no. Que ta chasse au
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Fawaz Baker, notre témoin de ce vendredi, Alépin qui ne peut revenir dans sa ville, qui était ici dans le groupe qui interprétait la Gwerz de la ville 10. Le choix de la ville 10 n'est pas neutre, puisque, d'une certaine manière, Alep est englouti. Enfin, vous allez refuser l'expression, et puis vous allez nous dire que pendant le début de la guerre, quand vous étiez encore là-bas, enfermé dans votre salle de bain au milieu de votre appartement, vous avez appris des choses essentielles.
Oh oui, bah oui. L'intérêt de la guerre, en fait, entre parenthèses, évidemment, s'il peut avoir intérêt, en tout cas pour moi, il y avait intérêt, c'est que tout ce qui est argent, tout ce qui est carrière, tout ce qui est le temps coûtant, disparaisse. Donc du coup, le temps est gratuit, il y a le danger de la mort qui est partout. Donc du coup, la vie, elle prend une importance en fait assez intéressante. Et du coup, on a le temps. Nous avons réellement le temps, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire à part attendre. Dehors, c'est le danger, donc nous sommes enfermés. De toute façon, moi je me suis enfermé dans ma salle de bain tout simplement parce qu'il y avait des snipers tout autour et on pouvait pas passer en fait devant la fenêtre, quoi. Parce que les fenêtres, c'était plutôt des passoires, quoi. Donc du coup, ben on était enfermés. Ben j'étais enfermé dans ma salle de bain et j'ai installé tout mon studio en fait d'enregistrement dans la salle de bain et puis voilà. Et j'ai fait un travail qui était très intéressant parce que je pouvais pas sortir.
Observation d'un spécialiste des chiens. Des chiens de chasse deviennent fous dans le tohu-bohu et le tumulte de la guerre. Quand parfois le silence s'établit pendant quelques instants, le maître fait retentir son fusil de chasse et le chien est empli d'allégresse. Le silence.
Ben oui, le néant. C'est là où on vient tous. Pas seulement le silence, l'absence de tout, quoi. Le zéro. Le zéro, il est vachement important. Le zéro, c'est notre mère de départ, quoi. Qu'on a fécondé après un 1, après, et qu'on a créé, en fait, ce vocabulaire de 0-1, en fait, qui est 0-1, 0-1, 0-1, mais le début, ça sera le zéro, et la fin, ça sera le zéro, forcément. Donc, on ne peut avoir de la musique s'il n'y a pas de silence. On ne peut avoir du dessin ou de l'écriture s'il n'y a pas la page blanche. Il ne peut avoir du temps s'il n'y a pas le néant du départ. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est pas seulement un aspect abstrait comme je raconte. Enfin, je veux dire, moi, je le côtoie tous les jours. La première chose à apprendre à un gamin qui veut apprendre la musique, c'est l'importance du silence. C'est l'importance du zéro. C'est-à-dire savoir ne pas faire du bruit. Et c'est très, 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 très difficile. C'est réellement difficile. C'est-à-dire de se concentrer et de savoir écouter le silence. Après, tout est facile parce que notre page, elle est réellement blanche. D'ailleurs, bon, bah, d'ici, je peux donner un exemple, en fait. Il y a des groupes de gamins, en fait, que je suis en train d'enseigner, en fait, actuellement. Et il y a un camp qui se trouve dans la nature, à 4 ou 5 kilomètres de la frontière syrienne, et un autre qui est le camp bien connu de Chatila, en fait, en plein centre de Beyrouth. Dans le deuxième, en fait, il n'y a pas de silence.
Parce que Chatila, c'est d'une telle densité sur un espace si petit.
C'est tout petit, il y a 250 000 habitants, en fait, pauvres. Mais c'est une partie de l'enfer, tellement il n'y a pas de silence. Il y a effectivement le bruit spectaculaire des armes, mais il y a le bruit moins spectaculaire de toutes les motos, en fait, qui passent, de tout, quoi. Il n'y a pas une seconde de silence dans cet espace. Pourtant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, et il n'y a pas le silence non plus. Enfin, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup, beaucoup plus de temps, en fait, d'imposer la discipline, parce que moi, je pense que la discipline aussi est quelque chose de très important.
Que dans l'autre camp, plus proche de la frontière.
Que dans l'autre camp, parce que, effectivement, parce que les gamins, en fait, ils sont déconcentrés tout le temps, et ils ne savent pas ce que c'est le vide. Et le vide, c'est l'autre face, quoi. Je veux dire, on peut rien avoir sans le vide. On peut rien en avoir sans le vide.
Pardonnez-moi de revenir à des considérations plus personnelles. Alors vous n'êtes pas rentré parce que l'aéroport international était fermé dès le printemps 2012. Votre famille est dans la résidence secondaire sur la côte turque. Plus on a des moyens, plus on peut aller loin. Les réfugiés que vous côtoyez dans les missions mensuelles que vous faites au Liban, ce sont les plus pauvres qui n'ont pas pu aller très loin.
c'est pas les plus pauvres, c'est deuxième degré. Les plus pauvres, ils sont en train de recevoir les bombes du monde entier actuellement. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu partir. Et c'est vrai que même cette histoire de guerre, c'est une affaire de classe, malheureusement. C'est-à-dire les gens qui ont le moins de moyens, en fait, ils sont collés là où ils sont. Donc du coup, il y a le monde entier qui est en train, enfin le monde entier, tout le monde, quoi. Pas seulement les étrangers. De l'extérieur, de l'intérieur, etc. Ceux qui ont un peu plus de moyens, ils sont partis au Liban, dans les camps qui sont plus proches. Un peu plus d'argent, en fait, ils sont partis dans les capitales, en fait, genre Istanbul, Amman ou Beyrouth. Encore un peu plus d'argent, bah, comme moi, entre parenthèses, en fait, j'en avais. Donc, du coup, j'ai pu partir jusqu'à la France. Et puis encore, il y en a d'autres qui ont un peu plus d'argent, qui partent au Canada. Donc, c'est un effet d'explosion, une réelle explosion, en fait.
Alors, je sais que vous ne voulez pas afficher vos partis pris, alors que vous dites que les responsabilités ne sont pas partagées également dans la situation que connaît Alep et que connaît la Syrie aujourd'hui. Vous dites il y a des bombardements du monde entier. Au sol, dans votre ville, la situation est complètement illisible.
Oui, mais pour vous répondre en fait exactement, si j'ai une partie prise, j'ai une partie prise, en fait... qui est très clair pour moi. Moi, je pense que je ne vais pas rajouter à toutes les vérités qui existent encore une vérité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous besoin d'honnêteté, plutôt. Je veux dire, les vérités sont changeantes. Hein. Et il y a énormément de vérités. Et de toute façon, de partout où on passe, il y a une vérité, je veux dire. On change par rapport à ses intérêts, Par contre, l'honnêteté et l'éthique, en fait, ils ne changent pas. Et il est inné dans nos... chez nous, je pense, chez nous, l'être humain, je veux dire. C'est pour ça que je ne veux pas rajouter une vérité, parce que les vérités sont changeantes, et de toute façon, les vérités, ça engendre les guerres. Hein. Je veux dire, quand on a raison, eh ben, on fait la guerre. Mais moi, je n'ai pas raison.
Merci infiniment, Fawaz Baker. Vous êtes à la Cité de la Musique ce 12 décembre, mais pour nos auditeurs seulement.
Alors, voilà, ce morceau que je vais jouer, c'est un morceau... ancien du répertoire d'Alep, en fait, il a plus que 200 ans.
Cette marche de l'histoire avec Fawaz Baker a été préparée par Frédéric Martin, avec à la technique Florent Layani, à la réalisation Jacques Sigal.
Merci Jean Lebrun, rendez-vous lundi prochain 13h30 sur France Inter.